Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Est-ce que les termes écologie et spiritualité, ça résonne en vous? Peut-être vous êtes un éco-spirituel qui s'ignore. C'est mon cas, par exemple. Je suis un éco-spirituel, je ne le savais pas. En tout cas, c'est sûr que pour moi, ces deux mots sont très très liés. Aujourd'hui, je reçois Julia Itel, qui est une doctorante en sciences religieuses. Et avec elle, on va beaucoup parler de éco-spiritualité, puisque c'est son sujet de doctorat. C'est quoi l'éco-spiritualité? Quel est le lien entre l'écologie et la spiritualité? C'est quoi la spiritualité? Comment la spiritualité a évolué sur les 50, 70 dernières années? Où est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'il y a besoin de faire un petit examen de conscience? Est-ce que l'éco-spiritualité, ça peut aller dans le bon sens? C'est quoi le rapport par rapport aux religions? Vous allez voir, c'est une conversation qui est hyper intéressante, sans jugement, c'est important de le dire, que je vous laisse écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Julia, comment tu te sens ce matin?
Bonjour Grégory, je me sens très bien. Merci de m'avoir invité.
Je suis ravi. On va parler de spiritualité, on va parler d'éco-spiritualité plus précisément. Peut-être que la première question qui peut sembler un peu basique et en même temps qui me semble essentielle parce que tu en parles dans ton papier, c'est quoi la définition de la spiritualité? Et c'est quoi les définitions modernes surtout de la spiritualité?
Alors, bonne question. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de consensus. Donc, je suis doctorante en sciences des religions et je m'intéresse à la spiritualité contemporaine depuis mon master, donc depuis 2016. Et puis, c'est vrai que dans mes lectures scientifiques, je ne trouvais pas de définition consensuelle sur ce qu'est la spiritualité. Alors, je pourrais pas te donner une définition exacte, je pourrais te donner des critères d'inclusion, qui sont assez communs parmi les chercheurs qui étudient ces phénomènes contemporains. Donc, en général, la spiritualité, c'est quelque chose qui, c'est un système de religiosité qui apparaît massivement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec la contre-culture et qui s'est depuis répandu dans la culture. Il y a beaucoup de personnes qui se considèrent spirituelles mais pas religieuses. Donc, c'est un système de religiosité qui se construit contre la religion institutionnelle et particulièrement la religion chrétienne et qui forme une sorte de nébuleuse. Donc, c'est pas un système qui est prédéfini, qui a un leader charismatique établi, etc. On est dans quelque chose de beaucoup plus flou qui est constitué en réseau et qui valorise en fait le culte de la subjectivité qui a le voilà, qui donne le primat à l'expérience personnelle, qui cherche une quête un peu de vérité et de soi dans l'expérience, dans la multiplicité aussi des traditions, des religions, des philosophies. Et ça emprunte à beaucoup de domaines. Ça peut être la psychologie, ça peut être la philo, ça peut être la science même, les domaines un peu plus écologiques. Donc ça, on en parlera sans doute après. Mmh. Et qui, ça permet à l'individu de se constituer un système de sens qui lui est propre et dans lequel il peut expérimenter une quête éventuellement de transcendance ou de connexion à un plus grand que soi. Voilà.
Et justement, quand tu dis qu'il lui est propre, c'est intéressant parce que ce qu'on reproche beaucoup aux religions, c'est qu'elles sont dogmatiques, en général. Donc là, ça veut dire, et je ne suis pas sûr de la réponse, c'est pour ça que je te la pose, la question que je vais te la poser en tout cas. Est-ce que la spiritualité, cette spiritualité moderne finalement, elle est exempte de dogmes? Ou est-ce qu'il y a des codes quand même, ou des choses à suivre?
Alors ça, c'est assez implicite, mais oui, il y a quand même des dogmes, il y a quand même des règles, entre guillemets. Je ne pourrais pas forcément toutes les citer. Sûr. Mais par exemple, c'est assez commun de rencontrer cette idée que déjà, c'est à l'individu que revient la responsabilité de sa vie, de ses choix. Donc, on occulte complètement le côté collectif, social. Il y a un peu derrière cette idée, la loi de l'attraction, par exemple, où on va façonner, nos idées façonnent notre réalité. Donc, ça, c'est systématique. Et une critique, d'ailleurs, qui a été adressée à la spiritualité, comme je disais, c'est que ça a mis beaucoup, beaucoup trop de responsabilités sur l'individu. Et voilà, donc, il y a aussi ce côté-là qui émerge. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre Ça, c'est vraiment l'essentiel, je dirais, et ce qui résume un petit peu la spiritualité contemporaine. Après, effectivement, il y en a plein d'autres. Marc Bonomelli, justement, qui a écrit là, le livre récemment sur les nouvelles routes du soi, sur la néo-spiritualité, il travaille actuellement sur un nouveau livre sur les dogmes actuels de la spiritualité. Ça pourrait être intéressant de l'interroger aussi.
Ouais, bien sûr. Bah, c'est lui qui nous a mis en contact par ailleurs.
Ouais.
Tu parles donc d'éco-spiritualité. C'est quoi l'éco-spiritualité? Quel est le lien entre l'écologie et la spiritualité?
Alors, donc l'éco-spiritualité, moi je l'aborde dans ma thèse de doctorat que je suis en train de faire. Alors pour moi, déjà, quand je m'étais intéressée à la spiritualité contemporaine lors de mon master, ma recherche de master, j'avais pu identifier trois catégories de la spiritualité. Parce que, je veux dire, comme on l'a abordé au début de cet enregistrement, la spiritualité c'est très nébuleux, c'est très vaste. Et puis souvent, en fait, dans la littérature scientifique, les chercheurs, ils ont un peu tendance à le résumer au New Age. Mais c'est pas que le New Age, en fait. Il y a beaucoup plus de subtilité que ça. Et donc,
faut que tu nous expliques ce que c'est que le New Age aussi.
Ouais.
Pardon.
Alors, le New Age, ce serait... Alors, ça dépend aussi des acceptions. Hein, on aime bien se compliquer peut-être un petit peu la vie en sciences sociales. Mais le New Age, tu as à la fois ce mouvement donc spirituel qui parle de l'avènement d'une nouvelle ère, l'ère du Verseau, donc du nouvel âge, où les hommes, les êtres humains vont devenir beaucoup plus fraternels. Voilà, il y a ce mouvement qui vient plus paisible, les guerres seront révolues, etc. Et puis
c'est
d'un
John
autre
Lennon.
Côté, d'un point de vue, c'est John Lennon, et d'un point de vue plus sociologique, c'est un courant qui émerge à partir des années 70, 80 même, et qui s'amplifie dans les années 90, et qui rassemble tout ce mouvement des nouvelles spiritualités, des nouveaux mouvements spirituels, et souvent, voilà, ça s'organise en réseau, c'est autour d'ateliers un peu de développement personnel, avec des croyances, un renouvellement de l'ésotérisme. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est à la fois ce courant idéologique de l'avènement d'une nouvelle ère, et puis d'un autre côté, il y a ce courant plus sociologique. Et aujourd'hui, il me semble qu'on n'est plus exactement dans une New Age. Donc, ce que j'avais montré dans mon travail de recherche de master, c'est qu'il y a plusieurs typologies de la spiritualité et qui peuvent être réparties en termes de phases un peu historiques. Donc, on a effectivement ce premier mouvement des années 70 à 90 qu'on pourrait qualifier de New Age, avec qu'une sociologue française a qualifié de nébuleuse mystique ésotérique. Je trouve ça un peu plus juste. Et qui rassemble...
C'est Eva Illouz
mouvements...
ou...
Non,
pardon, je t'arrête pas de te couper.
Françoise Champion. Ouais, Françoise Champion. Et qui rassemble donc tous ces mouvements un peu autour de la méditation transcendantale, de la quête d'expériences avec des entités comme des anges, de faire de la canalisation, de channeling. Voilà, on est donc dans un registre de recherche de connexion avec l'au-delà, dans une quête un peu mystique, transcendante. À partir des années 2000, je dirais, on entre dans un mouvement qui est un peu plus laïcisé. C'est un peu les enfants justement des baby boomers et qui en ont un petit peu marre des tendances magico-religieuses de leurs parents, si je peux résumer comme ça, et qui vont aller vers des courants plus philo, psycho. Donc ça, c'est une autre sociologue française, Nadia Garnossi, qui appelait ça la nébuleuse psycho-philo-spirituelle. Et on est dans quelque chose de qui se rapproche de la psychologie positive. Donc là, Eva Illouz, effectivement, elle a davantage étudié ces mouvements-là. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus laïque, sur la méditation telle qu'elle est représentée par Fabrice Midal. On est voilà sur des tendances un peu plus à travailler sur nos émotions, sur nos relations avec les autres. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus immanent, entre guillemets. Hein. Et puis là, la référence, souvent, les gens, ils vont, pour légitimer un peu leur spiritualité, ils vont avoir recours aux neurosciences, par exemple. Mmh. La neuroscience explique ces phénomènes. Et puis ensuite, j'en viens à l'éco-spiritualité. Il y a ce mouvement qui émerge à partir des années 2010, voire 2015, hein, avec tous les mouvements de prise de conscience de la catastrophe ou de l'urgence climatique. Il y a eu toutes ces marches pour le climat, etc. Et donc, on voit apparaître un mouvement éco-spirituel d'intention, de connexion à la nature, de réenchantement un petit peu de notre relation à la nature. Et c'est ça que j'étudie actuellement en Europe francophone, pour voir un peu quelles sont les formes éco-spirituelles qui prennent place aujourd'hui. Donc pour moi, si je pouvais résumer ce qu'est l'éco-spiritualité, parce que à nouveau, c'est un phénomène qui est nébuleux, qui est vaste, si je dois rassembler un peu tous ces mouvements qui peuvent être un peu parfois singuliers, ce sont toutes des approches spirituelles, sensibles, symboliques de connexion ou de reconnexion à la nature.
Quand je t'entends parler, je me dis, avec la modernité, il y a eu toute la technique, évidemment, et donc cet imaginaire qu'on pouvait tout expliquer en découpant tout en morceaux, ce qui a un peu supprimé la magie du monde. Et tu parlais de la magie sur le parti New Age, en tout cas, ou post New Age, développement personnel, on va dire. Et en fait, j'en parlais avec Michael Dandrieux, qui est un sociologue de l'imaginaire, qui me disait, en fait, la problématique, c'est que quand tu essayes de tout expliquer, ou que tu as cette illusion que tu peux tout expliquer, tu enlèves la magie du monde. Mais en enlevant la magie, le problème, c'est que tu enlèves l'espérance. Est-ce que tu n'as pas la sensation que, justement, ce retour de la spiritualité, et du coup, on va le connecter, évidemment, avec l'écologie, il est aussi dans un moment où on a besoin d'espérer qu'on va réussir à s'en sortir, d'une manière ou d'une autre, face aux défis qui sont face à nous, qui sont assez majeurs quand même, qui sont assez uniques, d'ailleurs, pour l'espèce humaine.
Oui, alors là, il y aurait deux éléments de réponse. Le premier, c'est que aujourd'hui, tu vois, j'ai rencontré beaucoup de guides de bains de forêt, des sylvothérapeutes, qui amènent des individus, des groupes en forêt, faire des immersions de plusieurs heures en forêt pour se reconnecter à leur sens. Et puis, dans une approche d'abord de bien-être et de santé physique, psychologique, émotionnelle. Et puis, de l'autre côté, qui peut les amener à se reconnecter à la nature, à la considérer de manière plus respectueuse, etc. Et puis, ils utilisent beaucoup, en fait, même de manière systématique, les études scientifiques qui ont été menées sur l'immersion en forêt, en nature. Et donc, ça permet, tu vois, l'explication rationnelle du monde, finalement, qui passe par la science, bah là, ils la réutilisent pour réenchanter et pour légitimer un peu l'expérience des thérapies forestières. Donc, on n'est pas dans une scission. Ouais. On n'est pas dans une scission entre science et religiosité. Ouais.
Parce qu'effectivement, il me semble que quand tu te mets sous un arbre, c'est prouvé scientifiquement que ça réduit le stress de manière assez générale.
Donc, oui, exactement. Il y a plusieurs choses. Ouais, il y a plusieurs choses. C'est que ça libère les arbres, notamment par leurs feuilles, libère des molécules qui permettent. Enfin, il y a tout un tas d'effets physiologiques qui ont été prouvés. Donc, ça active par exemple le système parasympathétique, donc qui produit un état de relaxation. Il y a aussi les ions négatifs il y a tout un ensemble de choses qui produit un état de relaxation, de détente. Ça permet de diminuer les ruminations, donc ça permet de lutter contre l'anxiété, contre le stress chronique, etc. Donc, tout ça a été prouvé par des études scientifiques qui viennent initialement du Japon. D'ailleurs, le bain de forêt, le Shirinyoku, vient du Japon. Et aussi, en psychologie environnementale, il y a des études qui sont menées. À Lausanne, actuellement, il y a une étude au CHUV qui est en train aussi d'être menée pour voir un peu les effets physiologiques. Donc, il y a plusieurs choses. Et ces personnes-là, qui ne sont pas forcément scientifiques, vont se réapproprier ou s'approprier ces études pour légitimer ou pour en tout cas donner une explication des bénéfices qu'il y a à aller en forêt, et c'est pas totalement scindé. Donc c'est deux visions du monde. Ce qui est assez intéressant dans l'écologie.
C'est même hyper connecté. En fait, c'est intéressant de voir. Enfin, moi, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, tu sais, quand je. Enfin, non, tu le sais pas d'ailleurs, mais j'ai écrit un bouquin sur l'écologie et où je dis que finalement, ce qu'il faut, c'est qu'on change de spiritualité de société. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on change notre rapport au vivant d'une certaine manière. Pas dans une logique ultra de développement personnel qui est effectivement hyper individualiste aussi. Et c'est le problème. Même si il me semble, mais tu sais ça mieux que moi, que dans l'histoire du self-care. Dans les années 60, c'était comme une réponse à des corps qui étaient extrêmement stressés, des âmes qui étaient stressées. Donc en fait, le capitalisme avait broyé les gens déjà dans les années 60. Et donc c'est comme ça qu'est arrivé le self-care à l'origine, c'est-à-dire une réponse individuelle à un système qui devenait un petit peu trop complexe, qui s'est ensuite transformé en un business. C'est-à-dire que le capitalisme dit « Ah, mais t'as un problème avec le système, attends, t'inquiète pas, on va te vendre une solution. » Mais c'est vrai qu'on est, on est tombé. Et aujourd'hui, je pense que c'est en train de retourner un petit peu. Moi, ce que je ressens, c'est que les gens sont en train un peu de délaisser cette logique de développement personnel pour se dire, en fait, il y a quand même des problèmes systémiques qui ne nous appartiennent pas, qui sont liés à la société. Tu parlais de neurosciences. Il y a Samara Karaki, que j'ai reçue sur le podcast, qui est une neuroscientifique et qui n'arrête pas d'expliquer que, en fait, non, ce n'est pas individuel et que c'est complètement collectif. Et que, en fait, quand on fait du développement personnel, on se perd parce que finalement... il faut pas perdre de vue, et c'est sympa de faire des développements personnels, et c'est pas la question, et moi j'ai beaucoup pratiqué aussi, mais il faut pas perdre de vue qu'il y a des problèmes systémiques qui sont de la société, qui sont pas liés à l'individu. Mais là où je voulais en venir, c'était de dire finalement, est-ce que tu sens pas que il y a un petit renversement en ce moment sur ce côté systémique et sociétal, plutôt que d'aller en renforcer encore ce côté développement personnel? Je sais pas ce que tu vois toi dans tes études.
Oui, alors, c'est ce que je voulais dire aussi en deuxième élément de réponse, donc ça lie bien les deux. Alors, parmi ma population de personnes que j'ai pu interroger dans ma thèse, qui font partie plus ou moins de l'éco-spiritualité, ce que j'observe quand même, c'est que il y a assez peu de militants. Donc, militants écologistes, environnementalistes. Ou alors, il y en a quelques-unes, des personnes qui étaient auparavant dans des associations militantes et qui ont ensuite arrêté forcément de faire partie de ces mouvements parce que c'était trop violent, c'était trop dans une énergie, comme il disait, un peu de lutte, un peu trop masculine, etc. Et qui ensuite ont changé leur manière de se mobiliser pour le vivant vers dans des approches beaucoup plus douces. Et c'est ce que après on voit dans l'éco-spiritualité. Donc ça peut être par exemple, c'est ça, d'amener des groupes dans les forêts. Ça peut être, il y en a une par exemple qui, alors elle fait pas du chamanisme seul, c'est pas exactement ça, mais elle est herboriste, et puis elle fait des retraites, et puis elle amène, on est davantage dans un registre de la guérison. Alors c'est un public aussi qui est très éduqué, qui lit beaucoup d'ouvrages en sciences sociales, donc qui adopte aussi un certain vocabulaire qu'on retrouve, voilà, le terme nature est remplacé par celui de vivant parce qu'il est plus inclusif, qu'il est non-dualiste, etc. Ça vient plutôt de des études ethnologiques et anthropologiques. Après, de là à dire, donc il y a quand même une conscience un peu plus systémique, de là à dire qu'il y a un vrai renversement et qu'on change du domaine du développement personnel individualiste vers quelque chose de plus collectif, je ne sais pas trop. Après, ce que j'avais dit à une journaliste auparavant, qu'est-ce que la politique ? Est-ce que c'est de s'engager de manière traditionnelle dans des partis, dans des mouvements associatifs, politisés, etc. ? Ou est-ce qu'on peut, il n'y a pas aussi une politique un peu plus du proche, voilà, on aide aussi les personnes. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans l'éco-spiritualité qui ont créé des réseaux d'aide psychologique pour les personnes qui souffrent d'éco-anxiété, par exemple. Donc, on n'est pas exactement dans le registre politique, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a à la fois pas énormément de politisation et de collectivisation. D'un autre côté, on n'est pas vers des individus qui sont complètement atomisés et non plus trop individualistes. Même si, quand même, le domaine du spirituel prédomine sur celui peut-être de l'engagement politique chez ces personnes.
C'est marrant parce que je tombe complètement dans les cases que tu décris, c'est vraiment drôle parce que j'ai pareil dans mon bouquin, je dis moi je suis engagé, je suis pas militant, parce qu'effectivement dans le militantisme j'envisage vraiment cet affrontement que moi dans lequel je me retrouve pas, et donc je me considère comme une personne engagée. Et tu vois, la manière dont je décris Vlan, c'est de dire j'essaye d'aider les gens, enfin les personnes qui écoutent, à être un peu plus sereines dans un monde qui est complexe et qui, je sais pas si il s'effondre, mais en tout cas il y a une partie de la civilisation ou un système qui lui va devoir s'effondrer d'une manière ou d'une autre, puisqu'il est, ouais, il est antinomique avec le vivant. Et ouais, tu vois, j'ai utilisé le vivant plutôt que la nature, enfin...
Ouais.
Donc, je rentre pas mal dans tes
cas. Ah, j'aurais pu t'interroger, alors.
C'est ça.
Mais tu vois, ce qui est intéressant
dans tes cases.
Ce qui est intéressant, c'est que contrairement... alors, il aurait fallu que je fasse une étude un peu contrôle groupe pour voir du côté des militants comment la représentation de la nature, la relation à la nature s'agence. D'un autre côté, chez les éco-spirituels, j'ai l'impression que ce sont des personnes qui sont plus résilientes d'un point de vue émotionnel, qui sont plus sereines face à l'avenir et qui n'envisagent pas forcément, qui ont conscience qu'il peut y avoir un effondrement, mais qui ont confiance en la capacité de résilience, justement, de la nature, même de l'humanité. Donc, on est dans des discours, tu vois, dans une sphère écolo globale. On est dans des discours qui s'affrontent un petit peu. On a d'un côté, alors on pourrait dire peut-être qu'ils sont utopistes, peut-être que c'est irréaliste même leur manière de penser, etc. D'un autre côté, peut-être pour faire face à l'urgence, des comportements qui sont plus résilients émotionnellement, qui sont pas dans la peur constante et dans le risque d'un burn-out aussi, hein, ce qui fait aussi beaucoup peur aux militants, ben, ça peut être aussi un élément de réponse.
Le burn-out militant, c'est un vrai gros sujet. Est-ce que on a parlé un petit peu de développement personnel, et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est en fait d'un mouvement qui était lié, enfin tu vois, à la Bhagavata, qui était le lien à soi pour aller vers du lien aux autres et du lien à la nature. On est passé dans un truc hyper capitaliste de lien vers soi. Et donc, extrêmement égoïste. Est-ce que ce développement personnel, ou en tout cas la manière dont les gens le vivent aujourd'hui, il ne s'oppose pas justement avec le combat écologique, puisque par définition, quand tu es hyper centré, moi je vois des gens qui, sous prétexte de développement personnel ou de spiritualité, vont faire des retraites à Bali, vont faire je ne sais pas quoi en Inde, ou partent en Amérique latine. Et en fait, ce faisant, en fait, ils font partie du problème, plus qu'ils trouvent des solutions. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas une opposition entre des développements personnels versus le combat qu'ils sont en train de mener par ailleurs?
Alors... Je distinguerai quand même les spirituels, développement personnel, et puis les personnes que j'ai interrogées qui s'ancrent plus dans cette perspective éco-spirituelle. Pour les éco-spirituels, je dirais quand même que, alors oui, il y a un travail sur soi, parce que ils sont ancrés dans dans ce milieu holistique d'introspection, etc. D'un autre côté, ils cherchent activement, et c'est hyper important pour eux, c'est essentiel à leur vie, de développer une relation avec la nature. Donc ils sont quand même, ils intègrent une altérité non humaine qui est globale, universelle presque, à leur vie. Ils le font donc de différentes manières, que ce soit des approches un peu plus sensibles, symboliques, spirituelles, ou alors il y en a aussi qui s'engagent un petit peu plus dans quelques associations, mais pas à ce point militante, tu vois, par exemple, qui vont créer du lien, etc. D'un autre côté, t'as tout à fait raison, il y a tout un courant, voilà, ce que Marc a appelé aussi les néo-spirituels, qui ont surtout, qui se sont accrus là après le Covid, et qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. J'aime pas forcément condamner en disant qu'ils sont égoïstes, égocentriques, et qu'ils réfléchissent pas vraiment aux conséquences de leurs actes. Parce que généralement, quand même, la spiritualité s'inscrit dans une quête de sens qui est assez cohérente pour eux. Et puis, voilà, c'est pas forcément quelque chose de non plus trop égoïste. D'un autre côté, c'est vrai que ta réflexion, elle est justifiée. Je veux dire, aujourd'hui, après, est-ce que c'est l'écologie qui les anime? Tu vois, je sais pas si c'est chez tous les spirituels, la dimension écologique, elle est présente. Donc, dans ces cas-là, et puis il y a aussi une recherche d'exotisme, puisque la religion chrétienne ou les religions monothéistes n'apportent pas d'éléments de réponse, on va aller chercher ailleurs ce qu'on peut trouver, ce qu'on essaye de trouver. Donc, ça, c'est pas nouveau, hein. Ça date aussi de la période hippie où on allait en Inde dans des ashrams ou à Katmandou. Donc, c'est quelque chose qui se poursuit dans ce milieu-là. Mais voilà, c'est effectivement, on peut se poser la question du coût du billet d'avion ou de l'immersion chez d'autres cultures. C'est pour ça d'ailleurs que, notamment dans mon groupe d'études, il y a beaucoup de personnes qui font du chamanisme, mais ils font du chamanisme européen, donc celte, tu vois. Parce que finalement, la forme amérindienne, c'était trop éloigné de leur culture, de leurs racines et de leur ancrage territorial, et qu'ils préfèrent aller voir ce qui se passait chez eux auparavant. Mais on est toujours dans quelque chose d'autre que le christianisme.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Est-ce que l'animisme, ça rentre à l'intérieur de ça? Ou est-ce que tu le positionnes? Est-ce que tu abordes, tu peux expliquer ce que c'est que l'animisme? Tout le monde n'est peut-être pas forcément très bien au courant. Et ensuite, comment ça s'inscrit à l'intérieur?
Oui, alors l'animisme, c'était, ça caractérisait, d'après les anthropologues, la religion un peu justement des peuples premiers où ils pensaient que toute chose avait un esprit animé, donc une âme. Aujourd'hui, oui, moi je vois complètement chez les éco-spirituels, je dirais que c'est ce qui les rassemble tous. J'utilise par contre le concept de New Animism, donc le néo-animisme du sociologue Graham Harvey, qui est en Angleterre, et qui aujourd'hui tend à caractériser en fait ces personnes qui privilégient la relation avec le monde autre qu'humain. Le monde vivant autre qu'humain. Et c'est vraiment sur cette notion de relation, de créer une relation entre les humains et le non-humain. Et ça, je le retrouve systématiquement. Par exemple, un de mes répondants qui considère que les arbres sont des partenaires, qui aussi pouvait se considérer proche même dès l'enfance des Amérindiens, alors que quand il jouait aux cow-boys et aux Amérindiens, il était constamment du côté des Amérindiens. Et puis en fait, parce qu'il avait une vision très animiste du monde, de la forêt qui l'entourait, et il croyait vraiment, il interagissait avec les êtres naturels ou les arbres, etc. Et puis il avait une relation, je ne dis pas qu'il communiquait comme on communique entre nous humains, mais il y avait une sorte d'échange, d'interrelation, et c'est quelque chose que je retrouve systématiquement.
Et en fait, il y a vraiment cette croyance que cette sagesse, elle est, en fait, qu'on l'a perdue finalement et qu'elle est naturelle, c'est-à-dire qu'on est en train de revenir à un système. En tout cas, je te parle de moi, ce que je pense, donc du coup, c'est beaucoup plus facile. Mais de se dire, bah, finalement, dans le capitalisme, on s'est un peu perdu dans l'ère du progrès qui finalement a des indicateurs de, j'allais dire des KPI, mais bon, c'est un mot qui est un petit peu complexe, mais disons des indicateurs de progrès qui sont très liés à la croissance financière. Et puis là, en fait, d'un autre côté, t'as des gens qui disent, hop, en fait, ce qui compte, c'est la relation à la nature, ce qui compte, c'est la relation entre les humains. D'ailleurs, le bonheur, ça a été prouvé mille fois, mais enfin, c'est uniquement lié à la relation aux autres, etc., à la profondeur des liens, et que on est en train de, en fait, on se reconnecte à qui nous sommes. C'est peut-être même d'ailleurs un mouvement de balancier finalement, de se dire on est allé vraiment très très loin dans ce capitalisme hyper financier et en fait on revient à un truc un peu plus équilibré. T'as pas la sensation, enfin, ou comment tu vois ça, toi?
Bah, alors ça, pour moi, c'est un peu un des dogmes de la spiritualité, tu vois.
Ah, tu vois, on y revient au dogme.
Ouais. Concrètement, je ne sais pas trop. Alors, tu vois, encore une fois, si je reviens à mon terrain, donc à l'éco-spiritualité, oui, ce sont des personnes qui travaillent sur elles, qui ont donc un lien à elles-mêmes qui se développe, un lien à la nature évident, sans doute un lien aux autres puisqu'ils amènent éventuellement des groupes où ils font du bien aux personnes. D'un autre côté, est-ce que vraiment on est en train de créer une nouvelle société où le lien social il est au cœur de nos interactions? Je veux dire, tu vois, dans la spiritualité, voilà, ce credo un petit peu, ben, il joue, mais pour quelques heures au sein d'un atelier. Puis ensuite, l'atelier, le groupe, le cercle se dissout et les personnes ne se revoient plus. Alors, le lien social, je veux dire, comment il perdure, comment il se crée, comment il reste dans la longueur, je ne sais pas.
J'ai même vu pire, moi, je suis allé dans des sortes de conférences où il y avait des gens qui étaient assez fortunés et donc ils parlaient comme ça, enfin, plus ou moins d'éco-spiritualité quand même. Mais en fait, dès qu'il y avait le moindre problème, je me souviens d'une en l'occurrence d'une soirée où tu vois, il était tard et il fallait prendre un bus, etc. Et là, ils étaient, enfin, c'était de l'animosité pour le coup, c'est pas l'animisme. C'est-à-dire que c'est rien à faire des autres. L'important, c'est que moi, je rentre dans le bus et que je rentre pour pouvoir dormir, quoi. Tu vois, ils étaient revenus à ce truc hyper égoïste, finalement. Donc, ils écoutaient des trucs très, tu vois, spirituels, de l'amour de l'autre, etc. Et puis finalement, dans la réalité de l'expérience, on les voyait pas vraiment là, quoi. Enfin, tu vois, dès qu'ils étaient un peu dans une... Alors, très légère, on parle de rentrer pour dormir, hein. On n'est pas en train de survivre, mais on voit bien ce qui les motive quand même derrière, là, derrière.
Oui, complètement. Et puis, alors, moi-même, j'ai pu participer à des événements spirituels, pas forcément éco-spirituels, mais spirituels, dans le sud de la France d'où je viens. Et puis, ce sont des personnes quand même qui forment une espèce de petite communauté. Donc, le temps du séjour, et puis sans doute, ils se voient aussi en dehors pour le noyau. Mmh. Mais pour toutes les personnes, un peu comme moi, qui visitent et qui viennent, ben, je sais pas, en termes de lien social. Alors, y a un moment donné, peut-être pour certaines personnes, il y a un apaisement de trouver d'autres gens qui nous ressemblent et qui pensent un peu comme nous, etc. Et puis ensuite, ça va leur faire du bien. Mais sur la durée, je sais pas. Et j'ai l'impression, même, tu vois, un peu les réseaux sociaux.